La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes le 6 juillet 452 à Mantoue, en Lombardie. Le pape Léon Ier est venu à la rencontre d'Attila, le chef des Huns, en marche sur Rome. Il s'agit de négocier la paix. En réponse à ses compagnons d'armes qui ne peuvent comprendre qu'il renonce à piller les trésors de la ville éternelle, Attila leur dit « Pendant que Léon parlait, j'ai vu près de lui deux personnages mystérieux à la figure surhumaine, au regard terrible, revêtus de l'habit sacerdotal, qui, l'épée nue, me menaçait de mort si je ne cédais pas à l'envoyé des Romains. » Le pape parvient donc à affirmer l'autorité de l'Église face à celui que l'on surnomme le fléau de Dieu. Il devient ainsi Léon le Grand.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Et pour évoquer le destin de Léon le Grand, Bernard Lecomte est avec nous. Bonjour Bernard Lecomte.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous êtes spécialisé dans l'histoire du Vatican et vous êtes l'auteur du dossier documentaire d'une série BD des papes dans l'histoire chez Glénat, ce tome-ci donc consacré à Léon le Grand qui s'appelle Défier Attila. Alors avant de partir sur les traces de Léon Ier, dit le Grand, on va revenir à la situation dans l'Empire romain au 4e siècle, en l'an 313, l'empereur Constantin joue un rôle primordial pour les chrétiens. Quel est ce rôle?
Alors, Constantin, c'est le grand tournant de l'histoire du christianisme, puisque de la mort de Jésus en Palestine jusqu'à ce que l'Empire romain se convertisse au christianisme, il se passe quand même 2 siècles et demi, presque 3 siècles, où les chrétiens, qui sont d'ailleurs pas très nombreux à Rome à ce moment-là, sont persécutés, sont considérés comme des gens un peu étranges, au culte un peu bizarre. Et certains des empereurs, je pense notamment à l'empereur Dioclétien, ne vont pas se priver de les persécuter. Constantin, c'est l'empereur qui arrive, lui, donc au tout début du 4e siècle, et qui a une maman importante. Vous savez que dans l'histoire, souvent, les mères sont importantes. Ouais. Et là, la mère de Constantin se convertit au christianisme et va évidemment dire à son fils que les chrétiens sont des gens très bien. Et Hélène, puisqu'il s'agit d'elle, va effectivement persuader son fils d'abord d'accorder le droit de culte aux chrétiens. On appelle ça une religion licite. Donc les chrétiens deviennent les membres d'une religion licite. Ils ont le droit. Et Constantin va se convertir. Alors c'est toute une histoire compliquée. Il y a une bataille très, très importante. C'est un petit peu comme Clovis en France quelques siècles plus tard. Il y a une bataille qui va décider un petit peu de sa foi et Constantin va se convertir à son tour. Et il va faire 2 choses fondamentales. D'abord, il va dire, voilà, vous, les chrétiens et l'évêque de Rome, vous restez à Rome et moi, je vais installer ma capitale à Constantinople. Si Constantinople s'appelle comme ça, c'est justement à cause de Constantin. Et deuxièmement, il va dire maintenant, la religion chrétienne va être la religion de l'Empire. Et c'est évidemment un tournant formidable, parce que du jour au lendemain, ou presque, en tout cas en quelques années, les chrétiens qui étaient des gens planqués dans des endroits loin du centre de la ville, à faire des offices en faisant le guet, vont devenir un peu les maîtres de la ville et de l'Empire, puisqu'ils vont avoir des basiliques, ils vont avoir des églises, ils vont entrer dans les instances dirigeantes, on va consulter les évêques, on va consulter les théologiens, et c'est ainsi que l'Empire romain va devenir un empire chrétien au 4e siècle.
Alors l'espace romain couvre alors tout le tour de la Méditerranée, depuis la Syrie jusqu'à la Gaule et l'Angleterre. Pendant un siècle, l'Église poursuit son essor, mais au début du 5e, l'Empire commence son déclin. Quelles sont, Bernard Lecomte, les grandes causes de ce déclin ?
Alors d'abord, c'est la grandeur de l'Empire, parce que c'est un paradoxe évidemment, mais quand l'Empire romain s'est étendu à ce qui est aujourd'hui la moitié de l'Europe et toute la Méditerranée, il était évidemment beaucoup plus difficile de défendre les frontières. Évidemment, quand vous défendez une ville, c'est assez facile, il y a des remparts, un pays passe encore, mais alors un empire comme celui-là, c'était difficile. D'autant plus que c'est l'époque, vous savez, on appelle ça, dans nos manuels scolaires, on appelle ça l'époque des grandes invasions. C'est l'époque où un certain nombre de peuples, de communautés, de peuplades, de gens vont débouler sur l'Empire romain. On a tous entendu parler des Visigoths, des Alamans, des Vandales, tous ces peuples-là vont déferler sur l'Empire romain. Et comme l'Empire est de plus en plus difficile à garder, eh ben, petit à petit, ils vont entrer. Ils vont percer les frontières, ils vont entrer, ils vont envahir, soit traverser, soit envahir, soit massacrer, soit piller. C'est le cas de cette grande peuplade qui était un peuple asiatique qui s'appelait les Huns. Et là, vous vous rappelez, vous aussi, dans nos manuels scolaires, les Huns, c'était Attila, c'était un danger gigantesque. Et on se rappelle, moi j'ai encore ça dans mon souvenir, 451, invasion des Huns. Voilà, ça c'est l'Europe qui voit ces peuples-là, qui sont pas des tendres. Hein. Quand ils arrivent quelque part, ils massacrent, ils pillent, ils incendient, ils enlèvent, ils violent, enfin. Et les Huns arrivent donc aujourd'hui, là où il y a la Lorraine et la Champagne, vous voyez à peu près, ils sont arrêtés là, par un patricien romain, et puis du coup, Attila va descendre vers l'Italie.
Parmi les causes encore du déclin de l'Empire, il y a la rivalité aussi entre Rome et Constantinople, et puis une perte d'autorité publique.
Oui, alors, d'une part, c'est cette rivalité, d'ailleurs, n'est pas tout à fait le mot juste, parce qu'il y a un espèce de partage entre Rome et Constantinople. Sauf que, bien entendu, Constantinople, qui devient la capitale de l'Empire romain, n'a pas du tout l'intention de laisser d'autres villes, dont Rome, lui faire de l'ombre. Et on a effectivement une espèce de partage un peu compliqué entre la puissance de Constantinople, mais qui est une puissance relative par rapport à ce qu'a été Rome pendant des siècles. Rome, c'était quand même la plus grande ville du monde, la ville la plus puissante du monde pendant 4-5 siècles. Et là, on a une division du pouvoir qui s'accompagne d'une dilution du pouvoir politique. C'est-à-dire que ce qu'a fait la grandeur de l'Empire romain est en train de s'effondrer sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. On ne sait plus très bien qui commande quoi. Les empereurs, qui étaient des grands personnages, mais on est loin de l'époque des Césars. Là, on a un empereur à cette époque-là qui s'appelle Valentinien III, qui est un jeune type qui est sans envergure aucune. On ne se rappelle même pas le nom de ces empereurs. Et ce qui se passe à ce moment-là, dans tout l'Empire romain, c'est que les seuls pouvoirs en qui les gens ont confiance, eh ben, c'est les pouvoirs religieux, ce sont les évêques. Parce que les évêques ont une vraie autorité qui n'est pas seulement morale, qui est religieuse, qui est spirituelle, qui est intellectuelle, qui est théologique, qui est aussi sociale, qui est aussi économique. Les évêques sont à la tête de grands domaines, l'Église est la plus grande puissance de l'époque. Et donc les gens vont se tourner vers l'Église, vers les évêques, un peu comme dans tout l'Empire. C'est vrai en Gaule, c'est vrai partout. On va se tourner vers cette puissance-là. Et les grands saints de l'époque, je pense par exemple à Saint-Germain-l'Auxerrois, moi qui suis bourguignon, c'est un saint que je connais bien, ce sont des saints qui vont prendre le pouvoir. Non pas qu'ils soient avides de ce pouvoir, mais simplement parce que le pouvoir politique s'effondre et les gens se tournent vers eux.
Léon devient pape en 440. Que sait-on de ce pape? C'est ce que nous allons voir avec vous, Bernard Lecomte.
Toutes les époques conviennent, mes bien-aimés, pour pratiquer le bien de la charité. Cependant, les jours présents nous y invitent plus spécialement. Ce que la bonté de Dieu nous a octroyé, donnons-le, nous aussi, à ceux qui ont péché contre nous. Mais bien, chers frères, il faut que notre libéralité se montre plus bienfaisante envers les pauvres et ceux qui sont accablés par toutes sortes de malheurs, afin que de nombreuses voix rendent grâce à Dieu et que le réconfort donné aux indigents viennent recommander nos jeunes. Aucune générosité de la part des fidèles ne réjouit Dieu davantage que celle qui se prodigue en faveur de ses pauvres.
Un jour dans l'histoire sur la première.
13h15, 14h30.
Voilà un extrait du sermon du pape Léon Ier pour la quatrième semaine du carême. Alors, Bernard Lecomte, les origines de Léon Ier sont très mal connues. Les historiens situent sa naissance entre 390 et 400. Sait-on au moins où il vient au monde ?
Oh, ça se discute. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'archives. Mmh. Et puis, rappelons-nous les persécutions des chrétiens. Ce n'était pas l'habitude des chrétiens de garder des archives dans les tiroirs. Il fallait au contraire planquer à peu près tout ce qu'il y avait. Il y avait très peu de traces écrites à l'époque. C'est à partir seulement du 6e, 7e siècle qu'on va avoir, en effet, des vraies archives, des vraies sources historiques. À l'époque, le dénommé Léon, on ne sait pas très bien, on croit qu'il est né en Toscane, on ne sait pas très bien de quelle famille, on pense que c'est une famille modeste, parce que c'est un pape qui n'était pas extrêmement cultivé, comme d'autres le seront. Mais il a surtout, visiblement, une grande intelligence et un grand talent de diplomate. Parce que c'est un peu en tant que diplomate qu'il va se faire repérer. Et c'est d'ailleurs en pleine opération diplomatique compliquée en Gaule qu'il reçoit un message lui-même en disant « Voilà, le pape est mort et on vient de vous désigner pour la succession ». Et donc Léon, évidemment, part pour Rome et est accueilli là-bas et il devient pape. Alors pape, c'est-à-dire évêque de Rome, parce que quand on dit pape, c'est un mot qu'on emploie aujourd'hui facilement. En réalité, à l'époque, on ne connaît pas encore bien le mot qui va s'imposer par la suite. Le pape, c'est d'abord l'évêque de Rome. D'ailleurs, pour être clair, aujourd'hui encore, le pape, c'est d'abord l'évêque de Rome. Hein. Ouais. Il n'y a pas de pape sans l'évêché de Rome. Et Léon devient évêque de Rome, et il est exactement ce genre de figure autour de laquelle on va se rassembler dans cette période compliquée où l'Empire romain est divisé, où on ne sait plus à qui s'adresser, on ne sait plus qui va protéger les gens, et donc on va se tourner vers l'évêque de Rome. Et Léon va être en effet, ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un vrai patron, comme il y en a eu peu dans l'Église à cette époque.
Il succède à Sixte III, il est donc ordonné évêque de Rome le 29 septembre 1440. Alors pour bien comprendre le rôle joué par Léon Ier, Bernard Lecomte, il faut observer les différentes lignes de tension de l'époque, notamment dans la lutte contre les hérétiques, parmi celles-ci le manichéisme. Qu'est-ce que c'est que le manichéisme ?
Oh, le manichéisme, c'est une de ces hérésies. Alors, arrêtons-nous sur le mot hérésie. À l'époque, il faut bien comprendre qu'on n'est pas encore très très loin de la mort de Jésus et de ce que les évangélistes et les pères de l'Église racontent à l'époque. Il y a beaucoup de sujets qui méritent d'être un peu explorés, un peu éclairés. C'est assez époque, si vous voulez, qu'un certain nombre de gens vont dire « Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jésus qui est à la fois homme et Dieu ? Est-ce que quelqu'un peut être à la fois homme et Dieu ?» Faut savoir, faut choisir. Si Jésus est Dieu, il est Dieu. Mais alors, si Jésus est Dieu, est-ce qu'on peut dire que la Vierge Marie a été enceinte de Dieu ? Ça, c'est pas possible. Vous voyez, je dis ça avec un petit sourire, mais néanmoins, c'est ce genre de polémiques très complexes qui vont alimenter tous les débats intellectuels et théologiques de l'époque et tout ce qu'on appelle les hérésies. Alors, les hérésies, c'est tout simplement un courant qui part, qui prolifère, qui a beaucoup de membres, parfois c'est une secte, parfois c'est beaucoup plus, et qui déforme le christianisme. Et le manichéisme, c'est exactement ça. C'est à partir d'un gars qui s'appelait Mani, enfin c'était très compliqué, mais qui vont foncer dans la rigueur du christianisme en disant ce qui est important, c'est le côté moral. Il faut considérer que l'homme n'est pas là pour rigoler. Et ils vont inventer une espèce de contre-religion très rigoriste, mais qui va avoir beaucoup d'impact tout autour de la Méditerranée. Au point qu'un des très grands saints de l'histoire de l'Église, qui est saint Augustin, a commencé quand il était jeune, au début du 5e siècle lui aussi, quand il était jeune, il a commencé comme manichéen. Et puis voilà, alors aujourd'hui le mot manichéen, il est devenu, on dit c'est manichéen quand c'est tout noir ou tout blanc. Hein, quand il, voilà. Mais en réalité, à l'époque, c'était surtout tout noir, hein, quand même. Et c'est une religion qui est une religion très triste et qui a été condamnée très clairement par l'Église.
Il y aura d'autres hérésies encore. Et puis il y a le concile de Chalcédoine qui est un grand succès pour le pape Léon Ier. Chalcédoine qui est aujourd'hui à Istanbul, 4e concile écuménique du christianisme du 8 octobre au 1er novembre 451. De quoi s'agit-il et pourquoi c'est important pour Léon Ier ?
Alors ce qui est très important à cette époque, justement, c'est que pour calmer les divergences, les hérésies, les déviations, les dérives qui animaient les théologiens ou les chrétiens eux-mêmes, il fallait bien que quelqu'un tranche à un moment. Il fallait bien que quelqu'un dise, ben voilà, non, il y a bien une double nature de Jésus. Il était, en effet, à la fois homme et Dieu. Très bien. Mais ça, comment pouvait-on trancher? Eh bien, on rassemblait dans un concile, d'où le mot concile qui est resté aujourd'hui, on rassemblait un maximum d'évêques, d'archevêques, de théologiens, de patriarches, et on leur disait, voilà, vous avez 2 ans pour décider qu'est-ce qu'il faut penser de ceci ou de cela. Et à force de réfléchir dans des conciles sur ce qu'était la réalité de la religion, eh bien, on a fini par la codifier. Et par exemple, c'est à cette époque-là qu'on a inventé, par exemple, le credo. Le credo, aujourd'hui, bon voilà, c'est le « je crois en Dieu », hein, que les chrétiens continuent de réciter à chaque Eucharistie. Et ce credo, il a été institué à cette époque-là. Et il a bien fallu, en effet, que des gens se rassemblent et que des papes tranchent pour dire « ça sera bien, en effet, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. etc. » Ça a l'air de rien aujourd'hui, parce que, notamment, les jeunes dans les familles chrétiennes récitent le credo tout à fait normalement, presque sans y penser. C'est une des prières les plus connues, avec le Pater, le Notre Père. Et pourtant, il a bien fallu, à l'époque, que des gens disent « bah oui, mais alors, chaque mot a son importance, et ces conciles, dont le concile de Chalcédoine, dont vous parlez, ça a été des étapes très importantes pour fixer ce qu'est aujourd'hui la religion chrétienne.
Ouais. Et on voit donc que le pape Léon Ier remporte, vous le disiez, des succès diplomatiques, et ce talent de diplomate va lui encore être utile. En 452, le chef des Huns, Attila, abandonne la Gaule et lance une offensive vers le nord de l'Italie. La suite avec vous, Bernard Lecomte.
Attila, tu veux aller à Rome ?
Tu me demandes ça sérieusement ?
Bien sûr. Mais il se pourrait que tu échappes à plusieurs semaines de marche. J'ai reçu un message. Il semble que ce soit Rome qui vienne à nous. Demain.
La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Voilà, Attila, le Hun, Attila, donc ce chef tant redouté, se lance dans une campagne de conquête au milieu du 5e siècle. Il s'empare d'Aquilée, aujourd'hui dans la province italienne d'Udine. Les habitants de la région fuient. Ils ont d'ailleurs fondé un peu plus loin une cité qui deviendra Venise. Attila marche donc sur Rome. Il fait tomber Padoue, Vérone, Bergame, Milan. Quel rôle va jouer Léon Ier, Bernard Lecomte? Ce sont ses talents de diplomate qui le placent au premier rang de la scène.
Oui, parce que sa réputation est grande de discuter avec les puissants, et une réputation de diplomate à une époque où on manque justement de grandes autorités politiques et où on craint, comme la peste, ces barbares, ces invasions venues de loin. On sait bien que la plupart de ces peuples-là, quand ils arrivent, ils rasent tout sur leur passage. Et les Huns ont laissé, on le sait, encore aujourd'hui, Attila, ça évoque quoi ? Ça évoque cette herbe qui ne repousse plus, etc. Et le pape Léon va se retrouver donc à négocier. C'est lui-même qui va prendre finalement la décision, parce que du côté de Valentinien III, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Et Léon va prendre avec lui un certain nombre de prélats importants, et il va se rendre auprès d'Attila. Et vous imaginez bien que le pape, le plus grand pape de l'époque, et Attila, qui est un des plus grands chefs barbares de l'histoire, ça a beaucoup inspiré le scénariste et le dessinateur de cette BD sur Léon le Grand. Parce que avouez que un dessinateur à qui on dit tu vas dessiner la rencontre entre Attila et le pape Léon, c'est génial. Ouais. Et c'est effectivement un moment de l'histoire, comme on se les imagine, les grands moments de l'histoire. Les deux discutent. Alors, Attila n'est pas du tout une espèce de barbare sorti de sa grotte, hein, pas du tout. Il a fait des études, il connaît très bien, il parle très bien. Et ils vont en effet négocier, et Léon va obtenir d'Attila qu'il ne massacre pas les Romains, au fond. C'est le résultat de la négociation.
Ouais. Mais la question est quand même de se demander pourquoi Attila répond à cette demande du pape avec autant de clémence. Les historiens disent que peut-être l'empereur martien, empereur byzantin, aurait joué un rôle dans cette histoire-là.
Alors, vous savez, c'est très compliqué. Moi, très franchement, je me laisse faire par le scénariste et par le dessinateur, parce que cette affaire aujourd'hui, les historiens sont d'accord à peu près sur rien, et puis on en est à spéculer beaucoup. La famille de Valentinien III est complètement éclatée à ce moment-là. C'est la première fois, si vous voulez, à cette époque, qu'il y a plus de lien entre les deux parties de l'Empire romain. Valentinien III, il est à l'ouest, il est en Italie, et puis Marcien, lui, il est à Constantinople. Et tout ça forme des familles éclatées qui ont des liens un peu tordus. À une époque, Attila a même failli épouser une princesse de Constantinople. Tout ça pour arriver à s'entendre sur qu'est-ce qu'on fait, qui menace quoi et de qui. Et là, il faut bien dire que Léon le Grand, le pape, a une autorité et une menace qui fait peur, en effet, à Attila. Quand le pape vous dit « vous allez être damné, votre peuple sera massacré lui-même », etc., ça doit quand même faire un petit peu bizarre. Et c'est là où Attila, effectivement, je ne dis pas recule, mais accepte une partie des conditions de Léon. Et donc, il ne massacrera pas, en effet, la ville de Rome.
Alors, il se retire avec ses troupes. Il repart dans la Hongrie actuelle. Attila, il mourra l'année suivante, d'ailleurs en 453. Léon rentre à Rome. Et là, c'est là que son aura atteint son apogée. C'est un grand bond pour sa renommée.
Évidemment, c'est ça qui va faire évidemment sa place dans l'histoire. Mais là encore, il ne faut pas se limiter à ce moment historique. Il faut bien avoir en tête que Léon, non seulement a réussi ce coup diplomatique, mais a en plus une image. C'est lui, au fond, qui va faire comprendre à toute la Méditerranée que Rome est bien la capitale des chrétiens. Ouais. Et ça, c'est évidemment capital, parce que il y a d'autres grandes villes à l'époque. Il y a Carthage, il y a Alexandrie, il y a Antioche, il y a même plus près de nous en Gaule, il y a Arles, vous savez, au sud de la France, qui est une grande capitale romaine aussi. Et toutes ces villes ont des évêques.